Leçon 14. Ministère des enfants. Introduction. Lisez Matthieu 18, 2 à 6, 10 à 14. Quels sont les avertissements que nous voyons dans ces versets? Comment décririez-vous l'importance que Dieu voit chez les enfants? Parfois, les gens disent que les enfants sont importants car ils sont la prochaine génération, l'avenir de l'Église et les futurs dirigeants. Tout ce qui est vrai, mais tout d'abord, les enfants sont importants parce qu'ils sont des gens. Parfois, les adultes semblent oublier que les enfants sont des personnes avec des âmes éternelles et un potentiel inconnu. Le commandement de Dieu pour le ministère des enfants. Dieu a donné au peuple d'Israël antique une alliance. Il a promis de bénir et de s'occuper d'eux. Il leur a donné des exigences pour obéir. Dieu voulait que l'alliance soit pour toutes les générations. Il leur a dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, 6 à 7. Élever des enfants à suivre la volonté de Dieu était importante pour l'Alliance, car beaucoup de bénédictions de Dieu étaient conditionnelles et dépendaient de l'obéissance continue de son peuple. Si la prochaine génération a choisi de ne pas être fidèle et obéissante à Dieu, il perdrait les avantages d'une relation avec lui. Cela signifiait que l'enseignement minutieux des enfants était nécessaire. Dieu leur a donné des directions pour former leurs enfants. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 11, 19 à 20. Quel est le point que Dieu faisait? Il devait enseigner avec diligence, constamment et toujours, pas seulement à l'occasion. Il devait avoir des rappels de la loi de Dieu, postés dans des endroits visibles. Il devait voir des écritures partout. Il ne devait jamais oublier ou ignorer les commandes de Dieu. L'enseignement cohérent signifiait qu'il n'aurait ni pas de décoration, ni de divertissement, ni de comportements contraires à la loi de Dieu. Ces versets soulignent donc que les parents ont la responsabilité d'enseigner à leurs enfants les valeurs de Dieu de manière constante et cohérente et de les protéger des enseignements et des exemples qui feraient le contraire. Ce commandement a été donné aux parents. Quelles applications devrions-nous faire au ministère de l'Église? Premièrement, nous savons que la formation des enfants est d'abord la responsabilité des parents. L'Église devrait apprendre aux parents comment enseigner leurs enfants. Nous ne devrions jamais supposer que les enfants ne devraient obtenir d'instruction spirituelle que de l'Église parce que les parents ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, l'Église devrait exercer un ministère auprès des enfants dans le contexte de leur famille autant que possible, aider les enfants en aidant leurs parents. Lors de l'évangélisation, l'Église devrait essayer d'attirer des familles dans l'Église. Certains enfants issus de foyers non chrétiens viennent à l'Église et commencent à suivre le Christ. Dans ce cas, l'Église doit essayer d'exercer un ministère auprès de la famille. Si les parents ne répondent pas, l'Église doit être une famille spirituelle pour les enfants. Les membres de l'Église doivent être comme des parents plus âgés qui font preuve d'attention spirituelle. Évaluer le ministère d'une Église pour les enfants. Votre ministère des enfants n'est pas nécessairement réussi même si vos enseignants ont de grandes capacités. Le nombre d'enfants et d'enseignants augmente. Les enfants apprennent des informations bibliques. Les enseignants utilisent des matériaux de haute qualité. Les enfants jouissent du ministère. Ces caractéristiques devraient exister si un ministère des enfants réussit. Si un ministère manque d'eux, il y aura des problèmes. Cependant, il est possible qu'un ministère en ait une partie ou toute de ses caractéristiques, mais d'échouer toujours. Votre ministère aux enfants réussit si les enfants sont convertis et ont une assurance du salut. Les enfants mûrissent progressivement spirituellement. Comme les enfants vieillissent, ils suivent les principes chrétiens. Votre ministère n'a pas réussi avec un enfant qui n'est pas un suiveur de Christ. Choisis des modèles mondiaux. Suis le divertissement et les relations impures, comme il vieillit. Rejette la volonté de Dieu pour sa vie et suis des ambitions personnelles. Former une vie pour faire correspondre la vérité de Dieu est le travail de disciple. Il est de développer une personne dans un suiveur mature de Jésus. Le moment de la conversion n'intègre pas automatiquement la vérité de Dieu dans les modèles de pensée, les attitudes, les hypothèses et le mode de vie d'une personne. Que l'intégration de la vérité prend du temps. C'est la vraie tâche de disciple. La première nécessité pour le ministère des enfants. Un ministère des enfants forme rapidement un groupe de participants qui inclut les enfants et les adultes qui sont impliqués. Ce groupe a des leaders naturels, des personnes qui influencent les autres par leur personnalité, même s'ils ne sont pas dans des postes officiels. Parmi les adultes et parmi les enfants, il y a des leaders naturels. La première nécessité pour le ministère est un environnement chrétien avec une atmosphère spirituelle positive. Là, vous pouvez nourrir des chrétiens qui sont immatures, mentalement, physiquement, spirituellement et socialement. Cela signifie que les adultes doivent être des exemples spirituels. Vous ne pouvez pas utiliser les personnes du ministère des enfants qui ne sont pas des croyants graves. Vous ne pouvez pas inclure les enfants qui influencent fortement les autres pour rejeter votre message. Votre ministère aux enfants échoue déjà si les adultes qui aident le ministère sont là à cause d'une capacité particulière ou d'une autre raison, mais ne sont pas de bons exemples spirituels. Les enfants sans intérêt pour les choses spirituelles dominent la conversation et l'interaction sociale du groupe. Toutes les activités spirituelles ne sont conduites que par des adultes sans participation significative des enfants. Seuls quelques enfants veulent coopérer et montrer des intérêts spirituels, et ils ne sont pas socialement acceptés par la plupart des autres. Regardez le groupe des enfants et posez-vous ces questions. Si un nouveau garçon a commencé à venir à notre ministère, quels enfants du groupe suivraient-ils probablement ? Si une nouvelle fille était inscrite, qui aurait-elle tendance à suivre ? Ses influences seraient-elles bonnes ou mauvaises ? La première nécessité du ministère est un environnement chrétien positif. Le ministère des enfants doit être lancé avec cette première nécessité en place. Si le ministère a déjà perdu cela, il doit en quelque sorte faire un nouveau départ ou n'atteindra pas le bon but. Le principe de la communication de la vie. La connaissance de Dieu passe par des relations. Quand Dieu a parlé à Jacob, il s'est identifié. Il n'a pas dit « Je suis le Dieu de l'univers » ou « Je suis le Dieu qui a créé le monde », bien que l'une de ses déclarations aurait été vraie. Il a dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Genèse 28, 13. Dieu se révèle à travers les gens. Abraham est devenu un homme de foi, et d'autres croyaient en Dieu parce que de lui. Son serviteur Éliézer a prié le Dieu de son maître Abraham, Genèse 24, 12. Il devrait y avoir des gens qui viennent de connaître Dieu mieux, parce qu'il est votre Dieu. Parfois, nous supposons que le disciple ne dit que les gens ce qu'ils doivent savoir et ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas le cas. Tout d'abord, vous devez leur montrer une vie qu'ils veulent suivre. S'ils veulent vivre comme vous le feront, ils écouteront vos instructions sur la façon de le faire. Le disciple est une communication de la vie. Un mode de vie, avec ses motivations et ses valeurs fondamentales, est transféré d'un disciple à un disciple. Le principe du transfert de vie indique que le disciple se produit lorsqu'un enseignant implique son mode de vie, avec ses motivations et ses valeurs fondamentales, dans un élève. Les rabbins juifs du 1er siècle ont compris que le disciple était le transfert de vie. Quand un jeune homme voulait être le disciple d'un rabbin, il demandait au rabbin de l'accepter. Si accepté, il commencerait à partager la vie du rabbin. Il serait avec lui la plupart du temps, pas seulement d'apprendre sa doctrine, mais d'apprendre son approche de la vie. Jésus variait de la coutume de cette époque en choisissant des hommes qui n'avaient pas demandé à être ses disciples. Mais il a suivi la coutume de discipliner en partageant la vie ensemble dans le but du transfert de vie. Après la mort et la résurrection de Jésus, certains de ses disciples ont été arrêtés et pris avant le même tribunal qu'il avait condamné. Le Sanhédrin a probablement pensé que leur problème était terminé depuis que Jésus avait été éliminé. Ils ont supposé que quelques menaces seraient suffisantes pour intimider et faire taire les adeptes de Jésus. Comme ils ont examiné les disciples, ils pouvaient voir qu'ils n'étaient pas des hommes très éduqués, certainement moins éduqués que tout membre de la cour. Mais l'Écriture dit que le Sanhédrin a observé d'eux qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4, 13. Jésus avait tamponné sa vie sur eux. Qu'ont-ils vu de Jésus dans ses disciples ? Était-ce ses manières ou style de parler ? Peut-être, mais il y en avait plus. Ils ont vu un courage issu d'un sentiment d'appel divin. Ils ont vu un engagement constant à la vérité à tout prix. Ils ont vu un respect pour l'autorité, mais un rejet de compromis et d'hypocrisie. Les cœurs de ces politiciens corrompus et des hypocrites religieux doivent être ébranlés lorsqu'ils se sont rendus compte que leurs problèmes commençaient tout juste à commencer. Jésus s'est multiplié et a perpétué son influence à travers des disciples. Le docteur Paul Mark observait certains de ses jeunes étudiants en médecine lorsqu'ils ont pratiqué l'examen et le diagnostic des patients dans un hôpital en Inde. Comme il a regardé l'un d'entre eux traiter doucement avec un patient, il a été étonné d'une certaine expression qui est venue sur le visage de l'interne. L'expression correspondait parfaitement au visage de M. Pilcher, le chirurgien qui avait formé Dr. Brand en Angleterre. Le docteur Mark a expliqué au stagiaire qu'il avait réagi avec une telle surprise, car il savait que le docteur Pilcher n'était jamais allé en Inde, et il ne comprenait pas comment le stagiaire pourrait l'imiter. Enfin, l'un des stagiaires a déclaré « Nous ne connaissons pas le docteur Pilcher, mais Monsieur Brand, c'était votre expression qu'il portait. » Paul Brand and Philip Yancey, In His Image. Grand Rapids, Zondervan, 1984. Pages 18 à 19. C'est ce que vous enseignez, lorsque vous n'essayez pas d'enseigner, cela aura le plus d'effet. Vous enseignez le plus, lorsque vous n'essayez rien d'enseigner. Comme quelqu'un l'a dit, vous enseignez un peu ce que vous dites, plus par ce que vous faites, et la plupart par ce que vous êtes. Méfiez-vous de la puissance de votre exemple. Vous enseignez toujours, vous disciples surtout par votre style de vie. Vous montrez à un disciple comment répondre à ses problèmes par la façon dont vous répondez à vos problèmes. La gentillesse, la courtoisie et la patience sont importantes pour aider les enfants. Certaines personnes sont plus capables d'être gentilles, courtoises et patientes avec des enfants que d'autres. Vous montrez que vous valorisez une personne si vous lui accordez une attention particulière. Ne faites pas l'acte pressé quand vous lui parlez. Pensez à ce que dit votre langage corporel, si vous vous détournez, passez à votre tâche suivante, travaillez sur quelque chose pendant qu'il parle ou portez votre attention sur quelqu'un d'autre. Pratiquez de bonnes habitudes d'écoute. Les signes de bonne écoute sont le contact visuel, une expression concentrée, ignorer les distractions et répondre à l'humour ou à d'autres émotions du locuteur. Si vous devez vraiment vous dépêcher et ne peut pas vous arrêter pour écouter, vous pouvez expliquer. Cela ne les offensera pas si vous leur donnez généralement l'attention dont ils ont besoin. Mais si, en général, vous vous sentez trop occupé pour qu'ils prennent du temps pour eux, pensez que vous devez faire quelque chose. Vous devez arrêter et considérer quel est votre véritable travail. Notre disponibilité envers Dieu est plus importante que nos capacités. Dieu a besoin de notre disponibilité plus que nos capacités. Dieu donnera les capacités nécessaires pour accomplir son appel. Les jeunes ont tendance à être instables dans de nombreuses choses. D'un jour à l'autre, ils peuvent passer de spirituels semblables à semblants rebelles, de généreux à égoïstes ou de matures à enfantins. Ce n'est pas parce qu'ils sont hypocrites. Ils sont toujours en développement et leur personnalité n'est pas cohérente. Les jeunes sont instables, mais ils ont besoin que vous soyez stable dans vos attentes. Si sur leurs mauvais jours, vous leur dites qu'ils ne mèneront jamais quelque chose, vous abaissez leurs attentes d'eux-mêmes. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont être et votre évaluation influence ce qu'ils deviennent. Parlez beaucoup du plan spécial de Dieu pour leur vie. Dites-leur que Dieu a donné à chacun d'entre eux des capacités spéciales. Parlez de la satisfaction de trouver la volonté de Dieu. Un jeune potentiel de leadership peut avoir de nombreuses idées, mais ne pas bien faire la défaillance des mauvais. L'aspect de la maturité est la capacité de faire la distinction entre de bonnes idées et des mauvaises idées. Aidez-le à apprendre la sagesse, mais ne le découragez pas d'avoir des idées. Surtout, rappelez-vous que Dieu a le plan ultime pour chaque personne et il travaille pour l'apporter. Priez pour le discernement afin que vous puissiez travailler avec le plan de développement de Dieu pour l'étudiant. Priez pour les miracles de grâce et de la providence dans la vie de l'élève qui le fera dans la bonne direction. Améliorer les méthodes d'enseignement. L'enseignant a le contrôle du style d'enseignement. Il y a plusieurs aspects du style que l'enseignant doit planifier soigneusement. 1. Taux d'instruction. Les gens sont comme des vases avec un cou étroit. Si vous versez trop rapidement, certains n'entrent pas. Si vous enseignez des informations trop rapidement, elles ne l'apprendront pas. En tant que personne apprenant de nouvelles informations, il doit le connecter à ce qu'il sait déjà. Il doit également penser à la manière dont cette information s'applique à sa vie. Par conséquent, la vitesse d'apprentissage d'une personne peut avoir des limites à la rapidité. Il est préférable de faire un point de manière inoubliable que de couvrir de nombreux points qu'ils vont oublier. Il est préférable d'apprendre à appliquer vraiment un concept majeur que d'entendre des masses d'informations dans lesquelles ils ne voient aucune importance. Deux discussions de groupe. La plupart des gens ont besoin de discussions avec d'autres lorsqu'ils apprennent. Ils doivent être capables de poser des questions et de répéter un concept dans leurs propres mots. Si le style d'enseignement d'un enseignant n'autorise pas l'interaction des auditeurs, ils n'apprendront pas autant. Vous pouvez introduire un thème avec une question comme « Pourquoi est-ce important de ?» ou « Quelle est-ce la chose la plus importante que vous connaissez ?» Ne passez pas beaucoup de temps sur la discussion introductive, mais utilisez-les pour les intéresser. Après avoir présenté des informations, vous pouvez poser une question qui les rend à expliquer le concept de leur manière. Par exemple, quelle était l'erreur que la personne dans l'histoire a été faite ? Ou, pourquoi est-il important pour nous de ? Poser des questions qui doivent être répondues avec une explication au lieu de questions qui répondent avec un oui ou non. Les questions doivent être suffisamment faciles pour que la plupart d'entre eux obtiennent de bonnes réponses des enfants. Ils vont perdre de l'intérêt si leurs réponses sont généralement fausses. Ne faites pas pression sur un étudiant pour partager quelque chose de personnel. Au lieu de cela, essayez de créer une atmosphère dans laquelle il se sentira libre de partager personnellement. Ne laissez pas certains monopoliser la parole. Vous pouvez poser une question à un membre silencieux. « Qu'en penses-tu, Jacques ?» Vous devriez encourager la participation des autres. « Qu'en pensez-vous, les autres ?» Ne laissez pas les personnes de la classe à avoir leur propre discussion tout en ignorant le groupe. Ne laissez personne interrompre même un enfant qui parle. Essayez d'affirmer chaque commentaire d'une certaine manière avant de la critiquer. Si cela nécessite une correction, essayez de corriger en développant. 3. La pertinence. Vous posez toujours la question « Pourquoi ce matériau compte-t-il ? » Si vous ne savez pas, ils ne le feront pas non plus. Quelle différence devrait-elle faire en eux ? Existe-t-il des applications spécifiques qu'ils devraient faire dans leur vie ? Si vous ne pouvez y penser aucun, ils ne le feront probablement pas non plus. S'ils voient que le sujet leur est pertinent, ils vont mieux écouter. Afin de contrôler la classe, concentrez-vous davantage sur la rendant intéressante que sur la présidence de la discipline. 4. La signification. Montre les résultats de la vérité que vous enseignez. Que se passe-t-il quand les gens le savent et le suivent ? Que se passe-t-il quand les gens rejettent cette vérité ? Inspirez-les avec de grands thèmes. Évitez de dépenser trop de temps sur les plus petits problèmes. Dites-leur des histoires sur les autres qui ont vécu par la vérité que vous partagez. Ils ne se souviendront pas de vos contours, mais ils se souviendront de vos histoires. Fournir des héros pour eux. Ils cherchent des gens à admirer et imiter. Parlez des héros de la foi, pas seulement ceux qui ont vu de grands miracles, mais ceux qui ont accompli de grandes choses par le pouvoir de Dieu. Aidez-les à comprendre que la mission de l'Église, qui consiste à répandre l'Évangile et à faire des disciples, est le plus grand défi et le travail le plus gratifiant au monde. 5. Visuel. Si possible, utilisez des images colorées lorsque vous racontez des histoires. Lorsque vous enseignez des concepts, écrivez des mots principaux et des déclarations sur une planche. Ils se souviendront d'eux mieux s'ils voient et entendent. 6. Action. Les gens apprennent en faisant. Les enfants peuvent apprendre en fabriquant quelque chose ou en jouant une histoire. L'enseignant peut même leur faire jouer une histoire biblique pendant qu'il la raconte. Cela prend du temps, et il se peut que vous ne puissiez pas mettre en scène toute l'histoire à chaque fois, mais vous devriez chercher des moyens de mettre en place une certaine action à chaque fois. Une méthode de l'Évangile pour les enfants, le livre sans mots. Chaque page du livre sans mots est d'une couleur différente et représente une partie de l'Évangile. Vous trouverez ci-dessous un résumé du message qui va avec chaque page. Lorsque vous utilisez le livre sans mots, vous devez ajouter plus d'explications et laisser l'enfant interagir et poser des questions. Pour d'autres informations sur ce qu'il faut dire lorsque vous utilisez le livre sans parole, visitez ces sites web berean.org et abcjesuslovesme.com. Pour plus d'informations sur la création d'un livre sans parole ou d'autres choses similaires, Voir ce lien, teenmission.org. Remarque, certaines personnes mettent d'abord la page d'or, puis sur le noir, et continuent à travers les autres dans le même ordre énuméré ici. Noir. Noir nous rappelle le péché, les mauvaises choses que nous avons faites. La Bible dit que tout le monde a péché. En raison du péché, nous avons des problèmes avec Dieu. À ce stade, vous devriez demander à l'enfant d'admettre qu'il est pécheur. Rouge. La bonne nouvelle est que Jésus, le Fils de Dieu, est décédé pour nous afin que nous puissions être pardonnés. Rouge représente le sang de Jésus. Jésus est mort, mais il se leva des morts et prépara le ciel pour nous. Blanc. Quand Dieu nous pardonne, il nous fait nettoyer dans notre cœur. Il enlève tous les péchés que nous avons faits. Vous pouvez prier et demander à Dieu de vous pardonner. Dieu est prêt à vous pardonner si vous êtes désolé pour vos péchés. Or, l'or représente le ciel, l'endroit que Dieu prépare pour nous. Lorsque notre vie est terminée, nous vivrons avec Dieu au ciel où il n'y a jamais de tristesse, de douleur, ni de mal. Vert. Lorsque vous êtes pardonné, vous êtes un enfant de Dieu. Vous grandirez dans votre relation avec lui. Vert représente grandir. Vous en apprendrez plus sur Dieu et apprendrez comment il veut que vous viviez. Vous devriez lire votre Bible, prier chaque jour et écouter les autres qui savent vivre près de Dieu.